chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane, 95.7 Kick.
Il est 16h39 minutes. Je disais à PA, je regardais l'actualité judiciaire de la dernière semaine. Là, je pense que j'avais à peu près une dizaine d'histoires dont on aurait pu traiter avec Maître Bouliane.
Il y a du stock, là.
Il a fallu choisir. Puis on va commencer par la plus grosse histoire, c'est celle d'Éric Salvaille,
ouais,
qui a complété son témoignage au cours des dernières minutes.
Effectivement. Donc, Éric Salvaille qui a décidé finalement de témoigner à son procès. Il n'était pas obligé. Il a choisi de le faire. Donc, il a terminé son témoignage et aussi la contre-interrogation qui a...
Contre-interrogatoire.
Oui, c'est ça. En tout cas, ça là, qui a eu lieu également aujourd'hui. En gros, ce qu'on a appris, c'est qu'Éric Salvaille, lui, dément absolument tout. Ne se souvient pas... Ben, en tout cas, dit ne pas se souvenir de Donald Duguay. Dit ne pas se souvenir non plus d'y avoir fait des attouchements ou des commentaires sexuels déplacés. Par contre, ne ferme pas la porte à la possibilité qu'il ait pu y avoir commentaire.
OK.
Il dit que c'est dans son style d'humour, que c'est déjà arrivé, que lui...
Vulgaire, malaisant, il dit « c'est tout moi ».
Oui, que...
Mais il dit « j'ai jamais franchi la ligne du harcèlement ».
Non, pour lui, il dit « j'ai toujours fait des blagues dans ce sens-là, mais selon lui, n'a jamais dépassé la ligne ».
OK.
Puis, pour ce qui est de l'histoire dans la salle de bain, l'agression sexuelle présumée, lui dément tout, il dit que c'est une histoire complètement farfelue.
Voilà. Maître Bouliane, on a beaucoup de questions.
Oui.
On va commencer par la fameuse histoire des agendas. Il dit « Moi, je garde mes agendas depuis 1991. » Est-ce que c'est vraiment admissible en preuve, un agenda?
Bien, tout d'abord, il a mentionné qu'il l'avait fourni aux policiers dès le départ. Donc, entre autres, si je sais que sur un événement précis, je pense que c'est l'histoire de la salle de bain qui serait le geste le plus grave, il mentionne qu'il n'était même pas dans le building. Qui est une forme d'alibi, finalement. Si vous n'étiez pas là, vous étiez ailleurs. Et donc, lui, il fournit ses agendas dès le départ. Parce que sur un alibi, si vous voulez présenter ça dans votre défense, vous devez l'avoir dénoncé au préalable pour permettre à la poursuite de le valider. Ouais. Si vous arrivez, sortez ça de votre chapeau, « j'étais pas là, voici mon alibi », le juge ne va pas l'écarter automatiquement, mais ça va perdre beaucoup de sa valeur. Donc, lui, il a remis ça à ses agendas. « Regardez tout ça. Moi, je n'étais même pas là dans les dates que lui prétend, etc. » Et il a beaucoup insisté sur les agendas. « Je note tout, je note tout, je note tout. » Évidemment, on s'entend qu'on note pas une agression sexuelle dans son agenda, là, de toute façon. Ouais. Et le juge lui a posé une question qui peut paraître banale, mais qui était très importante. Il y a poser la question à M. Salvaille, est-ce que vous auriez besoin de votre agenda pour vous souvenir d'un événement en 1993? Mm-hmm. Et lui, il mentionne, ben, si ce n'est pas quelque chose de marquant, oui. Donc, à ce moment-là, le juge va se souvenir, il va certainement retenir ça de dire, monsieur nous dit qu'il ne s'en souvient pas, mais qu'il ne se souvient pas d'à peu près tout ce qui s'est passé à part les événements marquants, sinon il faut qu'il y ait recours à son agenda, contrairement à la victime qui lui vient dire, moi ça m'a marqué, je m'en souviens très bien. Et donc, on a quelqu'un qui dit, je m'en souviens pas. Et il y a quelqu'un qui dit « je m'en souviens très bien ». Et là, le juge pose la question « est-ce que vous avez besoin de votre agenda pour vous souvenir d'un élément qui… » Et il a répondu « oui ». Okay. Donc, à ce moment-là, ça pourrait au final lui nuire dans l'analyse que fera le juge.
Tu parles de nuire à Éric Salvaille?
Nuire à Éric Salvaille. Okay. Parce qu'il lui a posé la question « est-ce que vous auriez besoin de ça pour vous en souvenir ?» Il répond « oui ». Donc, il est en train de dire qu'il ne s'en souvient pas, ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est pas arrivé. Il y a une différence entre nier et dire qu'on ne s'en souvient pas. La nature a horreur du vide, puis surtout en matière criminelle, s'il y en a un des deux qui dit « je ne m'en souviens pas », puis il y en a un qui dit que c'est arrivé, selon vous, quelle version qui risque d'être retenue, celui qui dit qu'il s'en souvient? Évidemment, sur d'autres aspects, il nie plus de façon plus catégorique. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ont ressorti. Là, ça pourrait être un cours de droit, ce procès-là. Honnêtement, il y a plein d'exceptions à certaines règles qui ont sorti. Tout d'abord, on a parlé de l'alibi. Il avait fourni ses agendas pour qu'on puisse valider certaines choses. Il n'a pas dit précisément que c'était un alibi qu'il présentait, mais si on dit qu'on n'est pas là, c'est une forme d'alibi à ce moment-là. Il y a également l'histoire du polygraphe, hein, parce que dès le début de l'enquête, il a dit que c'était soumis au polygraphe. Évidemment, ce n'est pas admissible en preuve d'un bord ou de l'autre. On ne peut pas prétendre que ma version est crédible parce que j'ai réussi le polygraphe et on ne peut pas non plus attaquer votre crédibilité en disant que vous l'avez échoué. De façon générale, c'est très, très, très risqué. Moi, je suis de l'école de ceux qui ne conseillent pas ou de façon très rarissime à les clients d'aller passer le polygraphe parce que, à moins d'avoir un engagement très clair, du ministère public ou des enquêteurs, si ton client passe le polygraphe,
on
n'enquête plus sur lui, c'est plus notre suspect, on l'écarte, on ferme le dossier. Parce que si, de toute façon, on se met au polygraphe, tout ce que ça peut faire, c'est de confirmer les soupçons des policiers, puis que même si vous le passez, on va continuer l'enquête, complètement inutile de se rendre dans un test qui est valide à 90%. Suite à ça, il y a les accusations qui ont été déposées, et là, on lui a posé, je sais que vous avez parlé tantôt, qu'est-ce que la définition d'agression sexuelle?
Parce qu'Éric Salvaille, lui, mentionne que pour lui, une agression sexuelle, il faut qu'il y ait un contact. Donc, de montrer son pénis, pour lui...
C'est de l'exhibitionnisme.
C'est pas une agression sexuelle.
Bon. Il a raison, puis pas tout à fait. C'est-à-dire, s'il fait juste montrer son pénis, ça serait pas une agression sexuelle, ça serait effectivement de l'exhibitionnisme, mis à part par des mineurs, s'il y a de l'incitation à des contacts sexuels avec des personnes âgées de moins de 16 ans. Mais pour mal faire, le code criminel ne prévoit pas de définition d'agression sexuelle. À l'article 271, qui est le crime d'agression sexuelle, c'est « quiconque commet une agression sexuelle est passible de », on tombe immédiatement à la peine. Dans la jurisprudence, on se réfère donc à la définition de voie de fait, parce qu'une agression sexuelle, c'est un voie de fait à caractère sexuel. Donc, dans la définition de voie de fait, c'est l'utilisation de la force, l'emploi de la force ou la menace ou tenter d'utiliser la force. Et là, il pourrait arriver certaines situations où bien qu'il n'y ait pas eu de contact, on a menacé d'utiliser la force dans un contexte sexuel, entre autres de menacer quelqu'un, fais-moi une fellation, sinon je vais te passer à ouais. tabac.
Ça ressemble un peu à ce que racontait Donald Duguay là, dans son témoignage.
Effectivement. Il disait, et donc, même s'il n'y a pas eu, surtout dans un contexte de séquestration, je coince Alexandra dans un coin, puis je la menace violemment, le poing levé dans les airs, puis tu vas me faire une fellation, sinon ça va mal aller. Il n'y a pas de contact, ça ne va pas plus loin que ça parce que quelqu'un arrive puis on se recule puis on est capable de mettre ça en preuve. Ça pourrait clairement rencontrer la définition d'agression sexuelle, même s'il n'y a pas eu de contact, bien que dans la très grande majorité des dossiers d'agression sexuelle, on va s'entendre, il y a eu des gestes.
Ouais.
Donc, et dans la majorité des cas de voie de fait aussi, il y a eu des contacts. L'emploi de la force, c'est généralement qu'elle est employée.
Il a été raconté qu'Éric Salvaille aimait bien exhiber son pénis dans des réunions, des brainstorming, ouais. tout ça. Est-ce que ça peut être considéré comme une agression sexuelle? C'est-à-dire d'arriver d'une réunion puis se déballer. Là.
Ce serait de la grossière indécence. Ce serait un crime d'exhibitionniste essentiellement qui risquerait d'être porté contre lui parce que si à ce moment-là, il n'y a pas l'emploi de la force ou la menace d'utiliser la force, on rentre pas dans la définition de voie de fait, donc on ne peut pas rentrer dans le voie de fait à connotation sexuelle, donc on ne serait pas dans l'agression sexuelle. Okay. Et il y a un autre élément dans la preuve de la poursuite. Vous avez vu qu'on a fait entendre la victime principale, la seule victime au dossier, ouais. qui est le témoin principal. Et ensuite, on est venu faire entendre seulement des témoins qui sont venus dire « Oui, il me l'avait raconté ou il m'en avait parlé. » Généralement, ça, c'est de la preuve préconstituée. C'est inadmissible en preuve. On ne peut pas venir des témoins qui vont dire « Oui, il me l'a conté. Oui, il me l'a conté » pour tenter de rehausser votre crédibilité. C'est admissible seulement parce que l'avocat, dans le contre-interrogatoire, l'avocat tentait de démontrer que c'était inventé de façon récente. C'était pour attirer l'attention, c'était dans le contexte du MeToo, c'était par vengeance, c'est parce que Salvaille était populaire, etc. Donc, pour contrer cet argument-là d'invention récente, on peut faire une preuve de quelqu'un qui va venir dire « Il m'en a parlé, moi, en 93 ou en 94. Okay. » On ne rentre pas dans les faits précis. Ce n'est pas pour renforcer la déposition de la victime. Là. Ça ne vient pas dire « Ah, il lui a dit exactement la même affaire. » Ça ne peut pas servir à faire en sorte que vous êtes plus crédible, mais ça vient écarter, si on veut, cet argument-là d'invention récente. Autre chose, dans le témoignage d'Éric Salvaille, et c'est pour ça qu'on a parlé d'une possible contre-preuve, de façon générale, le ministère public ne peut pas vous faire une preuve de mauvaise réputation. On ne peut pas prétendre que parce que Salvaille, c'est le genre de gars qui sort la bisoune un peu partout, qui fait des jokes déplacés, c'est le type d'individu à commettre des infractions, des agressions sexuelles. C'est une preuve de propension, une preuve de mauvaise réputation. C'est de façon générale inadmissible en preuve.
Ah.
Sauf, comme il y a toujours des exceptions en droit criminel pour que vous soyez obligé d'engager des avocats, l'exception est, sauf si vous faites une preuve de bonne réputation. Donc, si Salvaille prend la boîte, non, ce n'est pas mon genre, nanana. Là, il a quand même admis, oui, c'est mon genre de blague, mais je n'ai jamais traversé la ligne.
Oui.
Et là, en contre-interrogatoire, on a commencé à gratter ça et on va se poser la question, est-ce qu'il a été suffisamment loin pour prétendre d'avoir la bonne réputation de celui qui fait des jokes, mais qui ne dépasse jamais les limites? Et là, à ce moment-là, si le juge accordait, compte tenu du fait qu'on considère que c'est une preuve de bonne réputation qui a été faite, il pourrait y avoir une contre-preuve et on pourrait faire entendre un paquet de monde qui viendrait dire...
Ah, des gens, mettons, qui ont été interrogés.
Mais c'est exactement ce que la Couronne a annoncé aujourd'hui. Et donc, le 10 mars prochain, la Couronne
veut...
Le 11 mars. Ouais. veut présenter une contre-preuve.
Et c'est
Est-ce que c'est là qu'on s'en va?
Ben, évidemment, la contre-preuve, c'est souvent limité, mais dans un contexte où on considère que l'accusé, en témoignant, a fait une preuve de bonne réputation, on peut, à ce moment-là, présenter une contre-preuve pour faire la fameuse preuve de mauvaise réputation qu'on ne peut pas faire au préalable, là, en disant on va y faire une preuve de mauvaise réputation ou de propension. Ça, c'est inadmissible. Mais prenez un cas classique. Il y a quelqu'un qui est accusé de voie de fait puis qui prend en bois et dit « Je me suis jamais battu de ma vie. Jamais. Pas mon genre. Doux comme un agneau, etc., etc. » Un instant. Là, on n'a pas mis en preuve les 142 dossiers qu'on avait contre vous, etc., qui ont été retirés ou que vous avez signé des 810 ou qu'on a des témoins qui viendraient le dire. Là, à ce moment-là, pour éviter que, si on veut, l'image de l'accusé soit tronquée ou embellie inutilement, mais à ce moment-là, on va pouvoir introduire cette preuve-là de mauvaise réputation. C'est très risqué, ouais. Là, et on flirtait, là. Est-ce qu'en disant « j'ai pas franchi la ligne, il fait une bonne réputation » parce que son avocat va certainement prétendre. Non, non, il l'a admis qu'il faisait des blagues puis qu'il était peut-être du genre à se montrer
l'engin. Ouais. Est-ce que dans la contre-preuve, parce que je sais qu'il y a 3 plaintes qui ont été déposées aux policiers à l'égard d'Éric Salvay, est-ce qu'on pourrait aller piger justement dans ces plaintes-là qui n'ont pas été retenues pour justement démontrer qu'il traversait la ligne?
Oui, ou ça pourrait être des comportements de des personnes qui n'ont pas porté plainte contre lui, mais que moi, j'ai été témoin. Éric Salvay, clairement, là, nous donnait quasiment des coups de pénis, puis il nous disait qu'il voulait coucher avec nous, puis il nous donnait des petites tapes sur les fesses. Moi, j'ai pas porté plainte parce que c'est dans un contexte, mais clairement, c'est son genre. Fait que quand il vient vous dire en interrogatoire que c'est juste des petites blagues enfantines, là, puis qu'il traverse jamais la ligne, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que ce bout-là est très risqué. C'est pas automatique que le juge va l'accorder, là. Il y a certainement, c'est pour ça que le ministère public a dit on va prendre un pas de recul, on va évaluer la possibilité d'une contre-preuve. On va donc évaluer est-ce qu'il est allé suffisamment loin pour qu'on considère que ce soit une preuve de bonne réputation. Et à ce moment-là, on pourrait revenir avec une preuve de mauvaise réputation.
J'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai même entendu dans mon entourage des gens qui remettaient en cause l'histoire de séquestration à cause du physique d'Éric Salvay. J'ai beaucoup lu ça, j'ai beaucoup entendu ça, des gens qui disent « Moi, mais tu peux pas être séquestré, il y avait qu'à le pousser et il pouvait sortir. »
Oui, mais Salvay avait quand même 175 livres et la victime 125.
Mais le commentaire, je l'ai souvent vu revenir, je l'ai entendu aussi de gens autour de moi qui trouvent que c'est impossible pour Éric Salvay de séquestrer quelqu'un.
OK.
Bon, impossible, on va un peu loin. Il est vrai que le physique, dans certains cas, entre autres en légitime défense, le physique va rentrer en ligne de compte. Donc, évidemment, si un gars de 300 livres dit « il a fallu que je donne 4 coups de poing dans la face à ma blonde de 100 livres parce qu'elle m'a graffiné », ça passera difficilement, on se comprend, parce que l'emploi de la force raisonnable, le physique vient. Dans ce cas-ci, lorsque la séquestration, c'est d'empêcher quelqu'un de le restreindre dans ses mouvements. Là, de ce qu'on comprend, il était, je pense, dans une toilette, il s'est mis là, puis là, si la sortie est derrière lui, je pouvais pas passer, il était là. On peut pas obliger quelqu'un à utiliser la force. Il aurait pu utiliser la force pour tasser Salvay et il n'aurait pas pu être accusé ou il aurait certainement été accusé de voie de fait s'il avait donné une belle grande poussée à Éric Salvay pour le tasser de là. Mais on ne peut pas forcer cette personne-là à l'utiliser, la force. Okay. Donc, si lui dit « Moi, il était là, il m'empêchait de passer, fait que j'étais séquestré, c'est pas mon genre d'utiliser la force », à ce moment-là, on ne peut pas dire « Il n'y a pas de séquestration parce que tu aurais donc dû te servir de la force pour le tasser. » Ça ne peut pas aller jusque-là.
OK. On va terminer avec le dossier du zoo de Falardeau. Hier, l'avocat du zoo, maître Dominique Bouchard, a réagi fermement aux allégations rapportées par Le Quotidien à partir de témoignages d'une dizaine d'employés. On dit c'est faux, c'est mensonger, ça repose sur des impressions, des conclusions sans fondement. On vous rappelle, diverses allégations de cruauté animale. On vous en a parlé hier. Aujourd'hui, j'ai appris que l'école primaire Saint-Pierre, la commission scolaire Lac-Saint-Jean, a annulé sa sortie qui était prévue demain aux eaux de Falardeau. Est-ce qu'on risque de poursuivre celles qui ont témoigné pour dommages et intérêts?
Là, à ce stade-ci, on est clairement, selon moi, dans un dossier civil. Il y a des allégations. Oui, il y a une enquête qui est ouverte, mais par des personnes anonymes. Et j'ai toujours un peu de difficulté avec les tendances spotted ou tendances dénonciation anonyme. Et dans ce cas-là, ça cause des dommages excessivement importants des entreprises. J'ai lu dans le journal hier qu'il y avait l'intention d'investir 12 millions de dollars, le réseau de Falardeau.
Oui, exact.
Avant, évidemment, ça peut avoir des conséquences. Et maintenant, on dit qu'on a ouvert une enquête. On ne monte pas un dossier et on ne porte pas d'accusation avec des personnes qui ne veulent pas s'impliquer. Les témoins, pour qu'il y ait des accusations éventuellement, devront s'identifier puis devront venir témoigner. Parce que tous les jours, les enquêteurs recueillent l'information de des personnes qui veulent garder l'anonymat. Un tel vend de la drogue, un tel fait ci, un tel fait ça. Mais si cette personne-là ne veut pas s'impliquer pour faire une déclaration puis être prête à venir au tribunal, on ne portera pas d'accusation sur ces simples allégations-là. Donc, à ce stade-ci, ça a sorti, ça aura des conséquences. Même s'il n'y a aucune accusation déposée, le mal est fait. Il y a des conséquences. Il y a des écoles qui sont en train d'annuler des sorties aux eaux de Falardeau.
Ça, c'est une parmi tant d'autres.
Donc, éventuellement, si on est en mesure de démontrer que c'était de la diffamation, que c'était inexact, etc., et qu'on est capable d'identifier les personnes, évidemment qu'il pourra y avoir des poursuites judiciaires ou un recours civil pour dommages et intérêts contre ces personnes-là. Je veux juste te ramener à Éric Salvay une petite seconde, parce que maintenant que tout est fini, maintenant le juge devra évaluer tout ça. Oublions la partie qui aura peut-être une contre-preuve, mais maintenant, ce que le juge a pris avec deux versions contradictoires, c'est le fameux test de WD. Premièrement, il va se poser la question, est-ce que je crois Éric Salvay? Si je le crois, il est acquitté. Fin des émissions. Deuxième étape, je ne crois pas Éric Salvay, mais est-ce que son témoignage soulève un doute dans mon esprit, un doute raisonnable? Si encore une fois oui, il est acquitté. Troisième étape ultimement, Je ne crois pas du tout Éric Salvaille. Son témoignage ne soulève même pas un doute. Donc, j'écarte complètement son témoignage. Mais est-ce que l'ensemble de la preuve me convainc hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité? Et à ce moment-là, s'il y a encore un doute raisonnable, il sera acquitté. Donc, le juge doit traverser ces trois étapes-là avant d'en arriver à une condamnation. Et pour chacun des chefs d'accusation, doit être convaincu hors de tout doute raisonnable. Il n'aura pas à choisir entre les deux versions. On entend souvent, on devrait évaluer qui dit vrai. Ouais. Il n'a pas en civil, c'est ça. C'est le 50 % plus 1. Donc, qu'est-ce qui est plus probable entre les deux versions? En criminel, le juge n'a pas à choisir entre la version de l'accusé et la version de la victime. Il doit être convaincu
à 100%.
Hors de tout doute. Hors de tout doute, c'est pas 100%, là, mais c'est hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments constitutifs de l'infraction.
Est-il possible que Salvaille soit condamné sur un seul des trois chefs?
Absolument. Okay. Il peut être condamné sur un seul des trois chefs. Il pourrait être condamné à des infractions moindres incluses. On le dit, exemple, qu'une agression sexuelle, c'est un voie de fait dans un contexte sexuel. Donc, si on écarte le contexte sexuel et on dit « oui, il l'avait poussé », ça pourrait être un voie de fait simple. Donc, il peut être déclaré coupable de tous les chefs, d'un, deux chefs, des infractions moindres et incluses, et il pourrait être acquitté, évidemment, sur l'ensemble des chefs.
Et dans la gradation, le chef là, qui pourrait lui faire le moins mal en termes là, de sentence, et le chef qui pourrait être le plus dommageable pour lui, là, qui pourrait lui voir écoper des années, là.
Des années, je dirais, on est loin de ça.
On n'est pas là?
On est loin de ça. Parce que malgré tout, on est quand même dans le bas de l'échelle des gestes. Là. Une agression sexuelle, ça passe de ça, là, de toucher une fesse, de toucher un sein, à pénétration complète, sodomie. Imaginez, là, le pire que vous pouvez voir, c'est ça demeure une agression sexuelle. Donc, à travers les agressions sexuelles possibles, on est quand même dans le bas de l'échelle. C'est des choses qui, pour un individu qui est sans antécédent judiciaire, à l'époque où ces crimes-là, maintenant, ce serait pas possible d'avoir d'emprisonnement au sein de la collectivité, mais à l'époque, c'est le cas. Je serais très surpris, même s'il était déclaré coupable, qu'il se ramasse derrière les barreaux pour une peine de prison ferme.
Maître Bouliane, merci beaucoup, ça a été un plaisir.